On va se retrouver avec un autre sujet qui est totalement différent, puisque du 9 au 12 juin prochain, les Open Source Circular Days, désolé pour mon accent anglais, débarquent à Rennes. Un événement dont l'objectif est d'échanger et de participer à des projets locaux ayant pour valeur l'économie circulaire et l'open source. Alors pour nous éclairer sur ces notions, on a ce soir avec nous Xavier et Olivier. Bonsoir.
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 Alors là, je vais me tourner vers Xavier pour commencer. Donc tu es cofondateur de Biome, dont Olivier, tu fais partie aussi également. Alors, c'est vous qui organisez cet événement à l'échelle rennaise, on en parlera juste après, mais est-ce que tu peux expliquer justement à nos auditeurs ce qu'est que Biome ?
Le Biome, c'est d'abord des personnes, des individus qui forment une communauté sur des pratiques qu'on appelle le biomimétisme. J'imagine bien que rapidement, tu vas me demander ce que c'est que le biomimétisme.
Qu'est-ce que le biomimétisme ?
Le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant, de la nature, et en copier les propriétés, notamment de forme, de matière et d'organisation, de système, pour en déployer des choses plus performantes pour les humains, avec une espérance écologique.
Et donc, vous êtes une... pas une association, c'est plus un collectif.
C'est un collectif, oui.
Comment ça se passe ? C'est des partages de connaissances ? Quelles sont les actions et les principes, en fait ? J'imagine comme ça que c'est un peu difficile à expliquer, je vois tes yeux.
Non, il n'y a pas de souci. Au départ, c'est toujours un projet, j'aime bien parler en termes de projet, mais c'est un peu un mot à la mode en ce moment avec la politique. On a été une entreprise qu'on a destituée volontairement. C'est réellement un collectif de personnes qui font des pratiques autour du biomimétisme. Donc il y a de la biologie, du design, de l'informatique, la sociologie, de la bricole, du do-it-yourself, du hacking, du making. Qu'est-ce qu'on est réellement ? Nous sommes un collectif en capacité de pratiquer les choses dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire copier le vivant, les formes, les matières, les matériaux. Il y a du partage de connaissances libres, ça c'est la base de l'open source. On a un manifeste qui décrit très bien, enfin très bien je ne sais pas, mais qui essaie d'expliquer que comme le vivant ne met pas de brevets sur ce qu'il développe, nous on évite, d'ailleurs on ne met pas de brevets sur ce qu'on fait, donc il y a du partage d'informations, de connaissances, mais également de codes informatiques, de plans, de codes, on ne peut pas parler forcément de codes, mais de formules chimiques et de design libres.
Et donc Olivier, je me tourne vers toi, est-ce que tu es un biomeur ? Alors c'est comme ça que vous appelez, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter justement sur ce... Oui, je reprends le terme de collectif ou de projet, je crois qu'on peut y associer pas mal de termes.
Ouais, c'est exactement ce qu'a bien décrit Xavier. Mais ouais, c'est une communauté aussi, j'aime bien ce terme-là parce que c'est aussi un terme qui fait référence à des termes en écologie, donc écologie pas au sens politique du terme, mais écologie en tant que science. On parle d'écologie des communautés, c'est une... Par exemple, c'est une science à part entière. Donc, communauté, c'est intéressant parce que qui dit communauté dit interaction, dit lien, dit aussi non pas compétition, comme on l'entend souvent dans la société, mais complémentarité. Et la communauté, c'est vraiment ça, l'essence même d'une communauté. Et je trouve dans le biome, en fait, j'ai trouvé une approche collective, on va dire, et complémentaire aux idées de chacun et aux actions de chacun pour mener des projets comme la Nuit du Code Citoyen qu'on a co-organisé il y a 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Et
en mars.
En mars, exactement, ouais. Donc, et là, pour un nouveau truc, pour les open source et économie circulaire.
C'est presque ça. Ouais, open source, circular, économie.
Ouais, à chaque fois,
il y a tous les mots, mais pas dans le bon ordre.
C'est ça.
Je me suis entraînée toute l'après-midi. Alors, quel est si on peut dire, le profil type d'un biomeur, parce que j'imagine que vous venez tous d'horizons différents et vous partagez tous, en fait, justement, c'est le principe du partage, l'open source, etc. Qui sont ces biomeurs ?
La première surprise que j'avais eue en montant cette histoire, c'est que ça intéressait beaucoup de monde. Au départ, on sortait d'un garage entre amis. On bricolait de la sève de pissenlit avec du soufre et un briquet pour faire du latex. Et on s'est dit, on y passe tellement de temps qu'on veut en vivre. Donc on a monté cette histoire. Et puis après, on a vu que ça intéressait plus de monde que nous, à Rennes et ailleurs. Et monter un laboratoire citoyen, tu te dis au départ, c'est des murs et des personnes. Et rapidement, on s'est rendu compte que ça intéressait les personnes à 200 bornes de Rennes, à 800 bornes de Rennes, à 1000 km hors des frontières. De faire un profil...
curieux.
Très curieux, ouais. Des personnes très curieuses. C'est difficile parce que ça demanderait de typologiser, je ne sais pas si on peut le dire, mais les personnes... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est de 15 à 57 ans, avec ou sans diplôme. en France, en Europe et hors Europe. Je pense que la curiosité rejoint, il y a une sensibilité écologique aussi, et il y a une forte envie de changer de paradigme, de point de vue industriel, écologique et environnemental.
Et donc Olivier, tu parlais des événements que vous organisiez, donc il y a eu justement la nuit du code citoyen, et là le prochain, il va falloir remettre les mots dans l'ordre, c'est l'Open Source Circular Days.
Economy Days.
Economy Days, ah ouais, j'ai oublié un mot. Donc ça va arriver très prochainement. Alors pour expliquer, c'est un hackathon mondial sur les valeurs de l'open source et de l'économie circulaire. Alors je crois qu'il va y avoir pas mal de termes à expliquer, vous allez être nos dictionnaires ce soir. Alors hackathon, open source... Qu'est-ce que c'est ?
Bah Olivier, je te laisse commencer par hackathon.
Alors, à pas confondre avec hackathon. en gros, c'est un terme qui devient de plus en plus à la mode. Pour faire court, c'est une sorte de rassemblement de personnes curieuses. Je trouve encore une fois le terme curieux intéressant, qui se rassemble pour monter un projet ou en tout cas pour booster un projet ou le développer. Ça peut être aussi bien des programmeurs, des designers, des biologistes en l'occurrence pour nous souvent, des gens qui ont simplement un intérêt à vouloir changer quelque chose. Donc, il y a évidemment des compétences qu'on recherche entre guillemets dans un hackathon, mais pas nécessairement. On veut vraiment avant tout des gens qui soient motivés et lorsqu'ils sont sur place, participent. Donc, participe aussi bien pour la logistique, évidemment, que pour auto-organiser l'événement, que même, évidemment, concrètement, booster le projet. Quoi.
Mais le sociologue Michel Lallemand avait écrit « La personne qui fait est légitime », je le dis pas en anglais parce que j'ai un aussi bon accent anglais que toi, mais c'est le principe de la culture maker, hacker. Tu viens pas avec un diplôme, tu rentres pas dans un collectif parce que t'es fiché de telle manière. Tu viens parce que tu fais, simplement.
C'est beau.
Pas moi, c'est Michel Lallemand.
Et donc, les valeurs de l'open source
Après, c'est extrêmement vague, mais c'est assez cool quand même comme valeur. Quoi. C'est... Non, mais c'est universel, c'est l'accès à tout le monde. C'est évidemment, c'est pas juste l'accès à tout le monde, c'est aussi... rendre la possibilité de reproduire la même chose. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut trouver plein d'informations en accès libre, mais on ne peut pas forcément refaire le protocole scientifique ou le protocole de la technologie qu'on a développée pendant le hackathon, la façon de développer une enquête sociologique. Si elle n'est pas documentée de A à Z, donc à partir du moment où on l'a imaginée ou en tout cas designée, jusqu'à la fin de la production, la mise en valeur de ce projet-là, on ne peut pas parler d'open source. Et c'est ça où c'est intéressant, et Xavier est extrêmement fort là-dessus.
Fort, je ne sais pas, mais ça me fait juste penser, je ne sais pas si le podcast est réutilisable pour vous et en open source, mais il y a un activiste qui est mort jeune, qui s'appelle Aaron Schwartz, qui a beaucoup fait pour la connaissance libre et pour l'open source. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est France Culture, je crois, qui vient de sortir il y a 2 jours, Payons notre dette à Aaron Schwartz. Il y a aussi un livre qui vient de sortir sur lui, par exemple, il y a un mois, le livre est sous copyright. C'est-à-dire que le mec en est mort de se battre pour ça. Il y a des gens qui écrivent sur lui, qui copyrightent le livre. L'open source, certes, ce sont des valeurs, mais c'est surtout tout un protocole de possibilité de réutilisation d'un code informatique, d'un plan architectural, d'un texte, d'un son audio, comme on est en train de faire à la radio, avec des règles. Il y a des licences qui sont appliqués dessus, qui permettent, c'est l'auteur qui choisit sa licence, ils sont degrés de... Il y a un copain chez Framasoft qui sont les champions français européens du libre et l'open source, qui dit le degré de fermeture de la licence que tu choisis, c'est le degré d'agression juridique que tu choisis derrière. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et l'open source, ça veut pas dire complètement libre ou ça veut pas dire gratuit. Il y a du gratuit, il y a du non gratuit. Et au-delà de ces protocoles, c'est surtout une communauté de personnes qui entretient ces ressources. Quand tu développes quelque chose en biologie, en informatique, en design, en architecture, en écriture, tu peux le faire tout seul dans ton coin, mais tu peux le faire à 10 000 personnes sur la planète. Ce qui veut dire que tu fais partie d'une communauté où il y a une communauté autour de toi qui entretient cette ressource avec des règles, des protocoles. Et finalement, on tend vers un commun derrière. Et là-dessus, l'open source, effectivement, est une philosophie, mais pas juste une pensée. Il y a des règles et et des responsabilités. Je préfère le mot droit et devoir, mais il y a des responsabilités.
Donc l'open source des valeurs qu'on pourra découvrir du 9 au 12 juin prochain avec les Open Source Circular Economy Days.
Parfait.
D'ailleurs du 8
au 12. Du 8 au 12. On commence le jeudi 8. Ouais.
Donc on peut aussi dire OSCE hein, pour les, ceux qui ont plus de difficultés en anglais. Alors justement, cet événement, il est à l'échelle internationale. Il sera voilà, simultanément, je crois, en plus de 75 pays. Est-ce que tu peux nous... Enfin, je me tourne vers toi, Xavier. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet puisque donc, tu es le cofondateur de Biotherm... Non.
Le Biome.
Biome, j'ai envie de rajouter.
ACLAB, mais tu peux rajouter des mots si tu veux.
Et voilà, qui est organisateur de cet événement à Rennes. Comment, pourquoi l'avoir amené à Rennes? Déjà, comment tu l'as connu? Parce que c'est la troisième édition.
Je ne sais pas. Alors, juste pour précision, je ne pense pas qu'il y ait 75 pays cette année. L'année dernière, il y avait 75 villes sur 4 continents. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait 75 pays cette année. Mais
ce serait beau.
Ce serait magique. C'est une histoire qui date d'il y a 3 ans. C'est des personnes que je côtoyais numériquement. Merci numérique. Et puis d'autres que je côtoyais physiquement, qui avaient lancé cette histoire en disant l'économie circulaire, c'est plein de promesses, c'est très bien. En gros, comment on arrête juste de ponctionner dans la nature, de transformer, de consommer et de jeter? Comment on fait des boucles vertueuses? Ça, c'était déjà intéressant. Moi, je pratiquais depuis des années. Mais si tu veux sauver le monde avec ces histoires-là où il y a une imprégnation écologique derrière, pourquoi tu fais un système propriétaire? Bonjour, j'ai la solution pour changer le monde, mais je ne veux pas te la partager à toi. Ça, c'était pas... Voilà. Donc, ils ont dit on devrait open sourcer l'économie circulaire comme on peut open sourcer le logiciel. Et ils avaient lancé l'idée, donc en 2015, de dire avec la communauté des makers, des Fab Labs, d'autres associations, d'autres personnes qu'on connaît, on se dit, bah, on met un protocole à notre échelle et puis on le partage au plus possible. Et chacun peut organiser son événement dans sa ville avec le focus, la thématique qu'il choisit. Donc il y en a qui ont traité des déchets, il y en a qui ont traité de l'éco-conception, il y en a qui ont traité des flux. Et voilà, ça a commencé comme ça en 2015, avec 35 villes. À Rennes, moi j'ai répondu tout de suite présent en disant bah, « écoute, le biomimétisme plus l'économie circulaire, il y a vraiment quelque chose à faire. » Et l'open source, ce sont les valeurs qu'on partage. Et puis comme ça s'est très très bien passé, de la petite histoire qu'on avait fait à Rennes à 4-5 personnes en bossant dans des bars, en bossant au champ libre, en bossant sur les bords de la Vilaine de manière assez nomade, on s'est retrouvé à être invité à être conférencier à Austin aux États-Unis.
D'accord.
Donc c'est une belle histoire. Et puis 2016, ça recommence. Et là, c'est encore plus marrant. On passe de 35 villes à plus de 75 villes dans le monde. Donc bah, nous, on y retourne. Et, voilà. Et puis cette année, c'était encore l'occasion de le refaire. Et je pense qu'il y a une réelle importance sociale, économique et écologique de traiter ces thématiques en plus.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, après, voilà, donc ça va être la troisième année, et qui nous écoutent, alors vous les invitez à venir co-construire en participant à cet événement, et notamment auprès de projets locaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler? Il y a trois grands axes, en fait, c'est ça?
Ouais, alors le premier, et après je te laisserai la parole, Olivier, parce que je parle beaucoup.
Vas-y,
trop.
Vas-y, t'inquiète.
le premier, c'est ce qu'on appelle une colonne de Vinogradski. Donc, c'est un tube transparent dans lequel on empile. Je vais essayer de ne pas parler trop technique, mais 6 couches de terre et une couche d'eau, qui sont des biomes bactériens, qui est un projet scientifique de professeur ou docteur, je ne me souviens plus, Vinogradski, qui existe depuis très longtemps. Donc on n'a pas inventé la roue. Sauf que ces biomes bactériens, bah, ils échangent de l'énergie. Ils sont complètement autonomes. C'est une colonne qui a été envoyée dans l'espace pour des projets de la NASA et la station... la NASA et l'Agence spatiale européenne. Tu vas me dire comment on rapproche ça de l'économie circulaire. Ces biomes bactériens, ils échangent des déchets, de l'énergie et de l'information. Et au-delà de faire la colonne, ce qui permet déjà de traiter une grande problématique qui est l'écologie des sols, ça permet d'étudier comment ces biomes bactériens-là designent et conçoivent des systèmes d'information et de transport, sans dévoyer le mot, mais peut-être pour la ville de demain, et même certainement, ou les moyens énergétiques. Et au-delà de ça, c'est un grand intérêt écologique. On parle beaucoup d'écologie, de préserver la nature et de lutter contre le réchauffement climatique, sauf que 99% de la biomasse de notre planète Terre est contenue dans les biomes bactériens du sol. Et si on ne le voit pas, on ne peut pas l'aimer, et si on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas le protéger. Du coup, de mettre une colonne transparente, au lieu de marcher dessus ou de mettre du béton devant les yeux des personnes, ça leur permet d'avoir visuellement, puis après on va essayer de leur donner un langage et des choses comme ça, et puis de rendre autonome et énergétiquement des petites choses qu'on appelle Raspberry ou Arduino, enfin voilà, ça devient un peu trop technique. Et du coup, là-dessus, c'est greffé mon pote Olivier, qui, lui, est très bon sur les données de la biodiversité et de la biologie, et donc il y a un deuxième projet en plus de la colonne de Vinogradski.
Alors, le deuxième projet, est, c'est Open BioBlitz, en fait. Alors, une petite définition d'un BioBlitz, avant, c'est l'équivalent d'un hackathon, mais pour naturalistes sur le terrain, c'est-à-dire que pendant 24 à 48 heures, en tout cas un temps donné, sur un lieu donné, des naturalistes, donc amateurs la plupart du temps, ou en tout cas citoyens au sens global du terme, accompagnés de professionnels, identifient tout ce qui se passe autour d'eux. Donc les oiseaux, tiens, j'ai vu une corneille le 28 mai à 14h15, etc. Donc ils identifient selon un protocole. Et ces biobilises-là sont des événements citoyens qui sont assez nombreux, de plus en plus, en France, dans le monde. En France, on peut connaître ça peut-être avec les 24 heures de la biodiversité. D'ailleurs, j'ai vu un truc passer par Bretagne Vivante, je ne sais pas, dans les prochains jours, il y a Bretagne Vivante qui fait les 24 heures de la biodiversité, justement. Donc à Rennes, en tout cas. Et ça donne que ces BioBlitz, ils sont souvent... donc c'est une multitude d'informations, on essaye de cadrer cette information parce que c'est beaucoup de termes. C'est j'ai vu tel oiseau, j'ai vu etc. Mais le qui, quoi, comment peut être facilement identifiable. Mais après, c'est tout ce qui va avec, tout ce que tu vas décrire. On parle souvent de données et de métadonnées. La donnée, imagine en fait une boîte de conserve que tu as au supermarché. Ça, c'est la donnée à l'intérieur, mais la métadonnée, c'est l'étiquette. Donc sans l'étiquette, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a dans ta boîte de conserve. Tu ne sais pas c'est quoi les produits qu'il y a dedans, tu ne sais pas la transformation, tu ne sais pas d'où ça provient, etc. Donc l'idée, en fait, derrière une application qui s'appelle OpenBioBlitz, ou en tout cas derrière une application pour acquérir des données lors d'un BioBlitz, c'est d'avoir toutes ces métadonnées-là. Et donc le projet, en fait, c'est une application
dans 5 minutes, tu vas dire que c'est le Tinder de l'écologie, de la biodiversité.
Ouais, non, voilà. Tu sais pas quoi faire un week-end, tu veux voir de la nature et avec du numérique, viens à BioBlitz. Non, mais en gros, c'est une application qui va se présenter sous trois volets. C'est-à-dire que tu as un aspect pour débutants, donc avec le qui, quoi, comment, donc les questions très simples. Le niveau intermédiaire avec plus de métadonnées à fournir et le niveau confirmé avec encore plus de métadonnées à fournir. L'intérêt de cette application, c'est qu'on la veut directement en traduction avec le Darwin Core. Le Darwin Core, c'est une nouvelle définition. C'est en fait le standard international pour décrire tout simplement les champs de la biodiversité. C'est de la sémantique. Tu sais, par exemple, au lieu de dire non scientifique, tu vas dire scientific name collé avec un N majuscule. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais cette standardisation va pouvoir te permettre de faire des méta-analyses de malades. Il existe plein d'institutions nationales, mondiales, qui récupèrent toutes ces données de biodiversité et qui font des méta-analyses de malades, qui font des méta-analyses aussi bien sur la santé. Par exemple, lorsqu'il y a eu le virus Ebola, ils ont pu obtenir toutes ces informations de biodiversité qui étaient mises en open access, faire une méta-analyse et pouvoir, en 3 semaines, décrire l'évolution où allait se trouver le virus Ebola. Donc, c'est toutes ces données de open source, toutes ces données de biodiversité en accès libre, pardon, sont très, très utiles. Et l'intérêt d'avoir un Darwin Core, donc l'intérêt d'avoir une standardisation intrinsèque à l'application, donne un gain fou au niveau temps, quoi. Donc, l'idée, c'est ça, à peu près. Et grosso modo, ouais.
J'en profite pour dire à nos auditeurs que si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de SILAB, www.c-lab.fr.
Et même poser vos questions offline, on restera dispo parce qu'on emploie plein de termes techniques et je comprends que des fois c'est un peu hardcore.
Ouais, c'est un petit. Depuis quelques mois là, que je suis là-dedans, mais ça va tout seul.
Mais sinon, on fait des choses simples, hein, on prend des clous, des vis et du plastique.
Et justement, il y aura un troisième axe, ouais. Starter Kit Aliapur.
Alors là-dessus, ouais. Ça permet de remercier le troisième larron. qui est pas là, oui. Parce qu'il est actuellement au Quai Saint-Cyr. Donc, si vous voulez y aller sur la pelouse du 62 Quai Saint-Cyr, allez rejoindre Théo, Mathieu et les amis pour en parler en direct live et faire un espèce d'apéro citoyen dans Rennes. En plus, il fait super beau. Et Théo, j'aime pas parler à la place des autres, mais on va quand même lui rendre hommage.
Bah, grave.
Théo est élève ingénieur à l'INSA en génie mécatronique. Et il fait du biomimétisme, il gère toute l'organisation, toute la com, il a fait les affiches dans Rennes, donc bravo Théo. Et effectivement, il nous ramène un truc qui est assez intéressant, dont tu disais qu'il vient d'une entreprise qui s'appelle Aya Pure, dont on a reçu les kits aujourd'hui, dont le principe est réutiliser des granulats qui proviennent du pneu. Il y a un problème avec les produits pétrosourcés, on en consomme beaucoup trop, ça pollue, enfin, plein de choses, et puis on les jette. Et donc là, on a trois kits que tout le monde pourra utiliser et appréhender pendant les Open Source Circular Economy Days, pour apprendre à réutiliser du granulat du pneu, ou d'autres plastiques ou d'autres matériaux, pour construire de nouveaux matériaux, leur donner une deuxième vie. Avec un liquide, un petit broyeur et un truc. Et au départ, on a pris ça, c'est pas très lié au biomimétisme, aux données de biodiversité, certes, mais comme on construit une colonne qui est un hybride entre art, science et technologie, il nous faut un support pour la mettre devant les yeux des citoyens, peut-être un jour place de République à Rennes.
Et appel à la ville de Rennes.
Voilà. Et si on fait ce support en matériaux recyclés ou même en biomatériaux à partir du même kit, là, ça devient intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on a pris ce kit-là dessus.
Donc des entreprises qui sont sensibles à l'écologie peuvent se mettre en contact avec vous
Elles doivent. On a parlé tout à l'heure de la première édition des Open Source Circular Economy Days à Rennes. Une entreprise qui fait beaucoup pour le recyclage qui s'appelle la Feuille d'Érable, qui est un peu connue à Rennes, sur la collecte des déchets cellulose et puis maintenant qui s'est étendue, nous avait accueillis en 2015 et était partenaire de l'édition 2015. On avait travaillé aussi avec des artisans, mais c'est quand même une jolie entreprise, quoi, la Feuille d'Érable. Il y a quand même quelques salariés, ça s'est étendu dans d'autres villes. C'est une boîte qui a un rayonnement national et qui avait pris le pari de bosser avec nous quand même dès la première année.
Et alors, voilà, on voit, c'est les grandes lignes, non, c'est les très petites lignes de cet événement et toutes ces valeurs qu'on vient d'évoquer. Mais alors, on peut peut-être aussi un peu parler du programme, puisque notamment, vous allez parler de l'open source lors d'ateliers. Mmh. Alors, ça commencera à 18h jeudi, c'est ça?
Alors, on commence à 14h à la Maison de la Consommation et de l'Environnement pour tout ce qui est prototypage, projet, constitution des équipes sur les trois prototypes dont on vient de parler. On sera pendant 5 jours à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, donc jusqu'au lundi 12. Soir 12, merci. Et effectivement, on va dans des bars, restaurants, cafés, aussi faire des conférences, ateliers, parce qu'on a conscience que ce qu'on fait peut intéresser plus largement que nous. Et donc le jeudi 8, tu me rattrapes Olivier, si je ne dis pas de bêtises, on va à la Marilis.
C'est la Marilis.
Donc en bas d'Hélice, pour une soirée dédiée à l'open source, au logiciel libre, à l'explication, dont normalement il y aura une vidéo, enfin une partie de la vidéo qui sera tournée pour alimenter un MOOC des Colibris sur l'open source. Et voilà. Le 9, on est pas loin de la MCE. On est
au
Mille Potes à 18h pour parler... Non, le 8, c'est biodiversité, c'est toi. Et le 9, c'est atelier pratique où les gens ramènent leur ordinateur parce qu'il y a Internet et tout. Et pratique, le logiciel libre. Enfin, on pratique avec eux, quoi. Et c'est le moment d'apéro de 18 à 20h dans les bars. Donc, on va toucher plein de monde. Et ça va être rigolo, quoi. Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois les années précédentes, c'est assez intéressant de sortir du cadre sprint de création technologique ou biologique et de dire bah tiens, il se passe ça au pied de chez toi et on peut aussi le faire dans un bar.
Justement, le choix du bar, c'est aussi pour... plutôt que de faire venir les gens à vous, c'est vous qui allez vers eux pour les sensibiliser sur ces thématiques. C'est peut-être, entre guillemets, moins effrayant que de rejoindre, par exemple, ce hackathon où on se dit finalement, je suis peut-être trop novice, j'ai aucune connaissance. L'open source m'intéresse, mais je ne suis pas une personne hyper aguerrie. C'est une façon aussi de les toucher, ces personnes un peu plus hésitantes.
C'est exactement ça. Depuis quelques années qu'on fait, on va dire, ces bêtises-là, pour ne pas employer de gros mots, on s'est aperçu que beaucoup de gens disaient « j'aurais aimé venir ». Mais après coup, quand elles voient les photos, quand elles voient la documentation sur un wiki, en disant « ça avait l'air chouette », comme pour la nuit du Code citoyen, on a fait une disco soupe. Ouais. Tu vois, les hackathons, ça a vachement une orientation technologique. Vous allez craquer du logiciel. On allait chercher de la bouffe dans les poubelles pendant une semaine et on a dit on cuisine ensemble. Et il y avait plein de monde qui sont venus parce que pour eux, ça fait sens plutôt que d'ouvrir un ordinateur. Donc on crée aussi du lien humain, la cohésion citoyenne dans la ville par d'autres médiums, d'autres moyens. Et le fait d'aller dans les bars, mais on avait fait une
masterclass de
masterclass de biomimétisme dans les bars. On a fait, on va pas dire une conférence, mais une soirée. Le bar est-il le premier des tiers-lieux, justement, à la Marilis. C'est l'un des grands endroits de rencontre. En tant que Rennais, quand tu fais la fin du marché des Lys le samedi matin et tu vas en bas de la place, les bars sont pleins à craquer. C'est tout âge, c'est toute couleur de peau, c'est tout moyen financier. Et ça discute, ça échange, ça troque des légumes. Ça, c'est intéressant. Et effectivement, si on considère que ce qu'on fait avec nos hackathons sont des choses qui ont une application sociétale, économique et écologique, il faut que ça aille dans les endroits où les personnes se rencontrent. Et dans la culture française, on a la culture de la terrasse et des bars. Et donc, c'est là aussi qu'on doit aller.
Et un autre événement pour essayer de convaincre les Rennais de venir participer justement à ces 5 jours pour l'année prochaine, c'est la restitution des projets. Oui. Ça sera le lundi 12 et ça, c'est aussi très important.
Alors, on n'a pas encore de lieu, donc appel si quelqu'un veut nous accueillir pour la restitution du 12. On est très preneurs d'avoir un lieu citoyen ouvert pour faire la restitution du 12, pour expliquer ce qui s'est passé pendant ces 5 jours avec les personnes qui l'ont fait.
Alors justement, pour un petit appel, vous recherchez encore du monde pour participer à tous ces projets ?
Ah oui. De n'importe quel âge, c'est pas le problème. Si tu as envie de faire l'écologie, si tu as envie de bricoler, si tu sais détourner du plastique, si tu as une visseuse dans la main, si tu sais ce que c'est qu'un Arduino, si tu sais ce que c'est qu'un ordinateur, si tu as envie de découper du pneu. ce qu'on recherche, c'est des reporters blogueurs aussi, parce que ce qu'on sait très bien faire dans l'open source, c'est documenter ce qu'on fait. Et ce qu'on sait mal faire, c'est raconter le contexte. La narration, ce que certains appelleraient le storytelling. Et c'est très important quand d'autres essayent de reproduire. Tu peux avoir les plans, tu peux avoir le code, tu peux avoir l'explication, mais si on ne t'explique pas le contexte autour, tu ne comprends pas pourquoi les gens se sont rencontrés, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, raté. Et voilà, si on a des blogueurs, blogueuses rennais, rennaises, très volontiers aussi, et c'est une chouette immersion, et c'est surtout un moment sympa. C'est hybride entre un festival et des vacances et du travail.
Donc, appel aux blogueurs, on sait qu'ils sont nombreux, ou même tout simplement les gens qui aiment tout simplement écrire. Voilà, je pense notamment à nos chers bénévoles de la radio. Pour les Open Source Circular Economy Days, on recherche des personnes pour documenter, ce qui est hyper important aussi pour. J'ai envie d'utiliser un terme, mais c'est pas le bon. Dédiaboliser, on parle pas de politique là, mais plus sensibiliser à la biologie. Désacraliser. Tout ce qui est biologie, numérique, ouais. C'est aussi une façon de documenter en fait ce qui se passe.
Faut pas avoir peur. Avec Olivier, on est tous les deux biologistes de formation, on a des parcours très différents. Si moi aujourd'hui je pratique le logiciel libre, il y a 5 ans, mon meilleur score sur un ordinateur c'était Ctrl-Alt-Sup, quoi. J'étais vraiment une bille. Mais quand on a envie, il y a peu de règles dans ce qu'on fait dans le milieu des makers, mais s'il y en a une qui est bien sacrée, c'est le droit à l'erreur est inaliénable, et le droit à l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Donc il ne faut pas avoir peur de venir et de se planter, parce que c'est en se plantant qu'on apprend.
Et alors pour ceux que vous avez convaincus pour l'open source circulaire, Circular Economy Days, parce que c'est au pluriel, ça sera 5 jours du 8 au 12 juin à Rennes. On peut vous retrouver sur Facebook pour avoir toutes les informations. On peut vous retrouver partout sur l'internet.
On essaye Facebook, Twitter, GitHub pour les plus geeks, la plateforme de documentation, lebiome.github.io justement. Je pense qu'on nous retrouve assez facilement. Si on tape Open Source Circular Economy Days Rennes, on tombe assez vite sur nos bêtises.
Et donc, je le rappelle, ça se passera du 8 au 12 juin à Rennes. Vous avez peut-être un dernier mot à ajouter à nos auditeurs ?
Viendez.
c'est pas mal comme conclusion. Moi, j'ai une pensée aux copains et aux copines qui sont actuellement au Quai Saint-Cyr, qui essayent d'accueillir du monde et de sensibiliser dessus. Ils auraient pu aussi et dû avoir la parole en même temps que nous. Donc, rendons à César ce qu'est César. Bravo Théo, bravo Mathieu, exactement. Bravo Jacques Leletti de la MCE, bravo aux amis au soutien. Et voilà, faisons ça ensemble et qu'on soit le plus en plus nombreux pour faire de l'économie, de l'écologie à Rennes et ailleurs.
C'est beau, on voit bien les notions de solidarité et de partage du biome. C'est beau.
C'est gentil.
Merci beaucoup d'être venu parmi nous, Olivier et Xavier.